11:04. Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Estou agora na companhia do Dr. António Marcelino Leal e da Rosalie Morgado. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Hoje vamos falar em francês e em português. Vai ser uma entrevista nas duas línguas. Vamos falar de muita coisa, nomeadamente da Fundação Sanitus, mas também e sobretudo do grande congresso que vai decorrer dentro de 3 dias, no próximo dia 9 de setembro, na Unesco. Um grande congresso chamado Handicapacité, sobre o handicap, como se diz em francês, a deficiência, também o desporto e a relação que isso tudo entretém com a sociedade na qual vivemos. Mas antes de entrarmos no nosso tema, gostava que Rosalie Morgado e Dr. António Marcelino Leal se apresentassem.
Ora, bom dia a todos. Eu chamo Rosalie Morgado e sou presidente de uma associação que chama Amigos Cívicos em Champigny-sur-Marne. E também sou presidente de uma associação que chama Grandir Champigny. E há 2 anos fiz o conhecimento do Dr. Professor António Marcelino. Ele tinha um projeto sobre o handicap. Então, como é um sujeito que me interessa muito, eu quis-me, como é que eu ia dizer,
associar
com ele. Pronto, e agora vou deixar o Dr. Lia explicar o projeto.
Oui, enfin, si vous préférez, on peut parler en français, c'est pas mal.
En français, en portugais, bon, en français et en portugais.
On essaye de se débrouiller.
Exact.
Bon, alors, rapidement, d'abord, il faut que je se ressouvienne au public qui nous écoute que Mme Rosalie Morgado nous a bien accueillis depuis le début dans ce projet et c'est très important pour nous, sa collaboration à Champigny et pas que, parce qu'on va devenir partenaire, je dirais, pour d'autres projets au niveau international. Donc, l'UNESCO, c'est un projet, c'est le début d'un grand projet qu'on voudrait amener au monde, si c'est possible, qui veut, à la fin, changer le paradigme qui est, pour le moment encore, très négatif sur l'handicap. Handicap, ça veut dire qu'on n'a pas une fonction, on a une absence d'une fonction, donc on voudrait changer ce paradigme et de faire devenir beaucoup plus positif. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé ce nouveau concept de valoriser les capacités au-delà de l'handicap. Et c'est pour ça qu'on a fait le nouveau terme « handicapacité ». OK ? Pourquoi ? Bon, je vous explique aussi un peu, je parle un petit peu de moi, rapidement, parce que, bon, je suis médecin de rééducation physique, je suis aussi médecin du travail, j'ai les deux spécialités validées au Portugal et en France, donc je connais un peu les deux réalités, j'ai travaillé dans un des pays, et je pense qu'il y a des choses bien à Portugal, des choses bien en France, mais aussi il y a des choses pas très bien. Donc il faut mêler un peu les deux systèmes, je dirais, et faire quelque chose qui est un mélange de ce que c'est positif en évitant le négatif. Et donc c'est pour ça qu'on a cette idée et on a voulu depuis le début faire une chose qui est une initiative luso-française, ok, qui est partie de Portugal, de la fondation Sanitus dont je suis le président et qui on veut en effet que engage aussi la France, ok. C'est ça l'idée. Donc on a eu la chance de connaître le docteur Marc Rosenblatt aussi, qui représente ici de l'organisation partenaire Panathlon International. Et après, on a ajouté une autre organisation que vous ne connaissez pas encore peut-être, mais qui est importante, qui est International Chair of Bioethics, qui est c'est une institution maintenant présidée par un Portugais, professeur Rui Nunes, qui habite à Porto, et qui donc a aussi accueilli le projet et qui est un autre partenaire au niveau international. Après, on a encore eu la possibilité de trouver des partenaires à UNESCO, notamment la délégation Comores, pour être capable d'introduire ce concept à l'UNESCO. Alors, bon, c'est une longue histoire, mais je m'arrête là. Et bon, on raconterait après le reste.
Effectivement, ce sont plusieurs institutions, comme vous le disiez, qui se réunissent pour ce congrès à la maison de l'UNESCO, Handicapacité Sport et travail, et parmi toutes ces institutions, il y a Fondation Sanitus, et vous êtes le responsable, Dr. Antoine Marcelin Leal.
Oui, c'est ça. Merci pour me souvenir. Des fois, j'oublie tant de choses en même temps. Mais bon, en effet, la Fondation Sanitus est née à Portugal, Porto, en 2007, disons. Et elle avait à la base un nouveau concept de santé qui s'appelait la Vita Balance Project, d'ailleurs qu'on veut ramener dans ce projet, et on va voir comment. Qui voudrait donc faire introduire, si vous voulez, un nouveau paradigme éducatif sur les écoles. Comme vous savez, à Portugal, la base éducative, c'est encore, au niveau de la santé, la roda dos alimentos, hein, la roue des aliments. Tandis que dans d'autres pays, il y a d'autres paradigmes, il y a d'autres formes d'éduquer basées sur la pyramide. Donc on a voulu changer ce paradigme portugais et plutôt devenir pyramidal, ok? Donc on a fait le concept Vita Balance, qui est la balance entre les calories qu'on mange, l'input des calories et l'output de calories, l'exercice. Donc c'est les balances entre exercice et alimentation. On a ajouté d'autres composants. Donc Fondation Saintus, c'est au début une fondation qui voudrait ramener ce projet sur la santé à Portugal. Ok, on a travaillé, on a fait des interventions sur les écoles, etc. Et on a ramené des congrès, des choses, des formes, des livres, des choses qu'on a fait sur cette question. Et là, on est en France, en essayant donc de marier un peu les deux concepts du Vita Balance Project avec le concept d'handicapacité. On vient de le faire. On va donc présenter un nouveau concept qui s'appelle Inclusive Vita Balance Project. C'est un projet de Vita Balance inclusive, si vous voulez, ou projet de Vita Balance inclusivo, que pretende precisamente juntar a noção de handicapacité com o equilíbrio entre o handicap e as capacidades. Ou seja, como é que podemos vir a compensar o handicap com as capacidades restantes. Por exemplo, um exemplo muito simples, uma pessoa que tem uma amputação de perna, por exemplo, pode colocar não só uma prótese da perna e compensa em parte o seu handicap, mas também pode fazer exercício com os braços, pode trabalhar num trabalho mais sedentário, pode fazer treinos de equilíbrio e pode compensar com essas capacidades restantes toda aquela falta que representa o membro, a perna, o membro inferior. Portanto, esta é a noção de que devemos valorizar as capacidades em detrimento do handicap, é a base do projeto e é fundamental para mudarmos o paradigma.
E como referimos há pouco, graças à parceria também com a Panathlon International e outras entidades francesas e associações locais, aqui representadas de uma certa forma pela Rosalie Morgado, a Fundação Saintus está a organizar então um grande congresso sobre a deficiência, o handicap, desporto e trabalho. Quais são as ambições deste congresso?
Bom, nós temos um programa bastante preenchido, a senhora Rosalie depois tem para dar algumas dicas, mas bom, dizer que vamos ter vários painéis, enfim, o painel inicial é um painel de abertura, depois haverá um painel, digamos, de apresentação do estado das coisas, digamos assim, a nível do handicap dos vários países da Unesco, portanto, ainda serão os países da Unesco que vão representar, vão apresentar esta componente, depois haverá um painel sobre a questão do desporto e o handicap, um painel sobre o trabalho e o handicap, um painel sobre a educação e o handicap, e no fim haverá a apresentação de projetos, onde a Rosalie Morgado vai também intervir com o projeto futuro, esperamos nós, para o ano 2025, que esperemos que seja, enfim, uma grande realidade muito em breve. Concluiremos depois com, enfim, não só as pequenas, enfim, refeições, tudo isso, e um pequeno espetáculo de dança. Haverá também um espetáculo de dança associado, chamado Capidance, capacidade de dançar, apesar de termos um handicap, e apresentações de outro tipo de filmes sobre também a restauração e o handicap, e sobre o handicap mental também. Portanto, são coisas importantes que vão estar, enfim, em simultâneo no Congresso e que, pronto, esta ambição é trazer todo este mix de iniciativas para a discussão na Unesco e para o público em geral.
E vamos para já, caro Dr. António Marcelino Leal e cara Rosalie Morgado, marcar uma curta pausa. Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Continuo aqui na companhia do Dr. António Marcelino Leal e da Rosalie Morgado. Estamos a falar, nomeadamente, da Fundação Saintus, que, em colaboração com outras instituições, está a organizar um grande congresso no próximo dia 9 de setembro na Unesco. Um congresso sobre handicap, desporto e trabalho. Um congresso que vai decorrer, então, após o encerramento dos Jogos Paralímpicos e, para tanto, suponho, dinamizar um espaço de reflexão multidisciplinar sobre a abordagem que se realiza no desporto e no trabalho relativamente à deficiência. Quais são, Dr. António Marcelino Leal, os grandes objetivos deste congresso, os três grandes projetos? Porque há três grandes partes, não é?
Sim, um deles, claramente, é, como disse muito bem, eu agradeço a sua intervenção, é colocar na mesa, digamos, um processo de reflexão multidisciplinar sobre a questão do handicap e mudar o paradigma do handicap para, novo termo, handicapacité, de promover as capacidades, facilitar, desenvolver, treinar, eu diria mesmo pagar, valorizar as capacidades em detrimento do handicap. Ou seja, se nós, por um lado, pagamos o handicap, vamos ter handicap. Se nós pagamos as capacidades, o trabalho, as realizações, as concretizações, vamos ter trabalho, concretizações e sucesso. Portanto, isso temos que pensar como é que vamos valorizar esta componente. E, portanto, logo após os Jogos Paralímpicos, que é, de facto, um exemplo fantástico, espetacular para mim, é mais bonito os Jogos Paralímpicos do que os Olímpicos mesmo, que é um exemplo, digamos, o expoente máximo, uhum, da capacidade para além do handicap.
Não é? Sim, de motivação, então, extrema.
Vemos as pessoas que sem braços e sem pernas a poder nadar, que bem, é fantástico, como é que é possível? Mas só isso acontece. Portanto, se essas pessoas são capazes, porque outros não são também capazes. É esse exemplo que temos aproveitar, porque tem logo a seguir, por um lado, para os valorizar, vai haver vários convidados, enfim, a nível dos Jogos Paralímpicos, presentes, e a ideia é mostrar, se eles são capazes, nós também somos capazes, na sociedade civil, no trabalho, no dia-a-dia. É essa a ideia. Por um lado, o Congresso é um projeto em si, esse Congresso vai conter no seu interior, obviamente, um livro redondo, diferente, original, criado em Portugal, editado em Portugal, transportado de Portugal, de Porto para cá, daqui a dois dias, e que contém no seu interior quatro secções, tem traduzido em quatro línguas, português, francês, inglês e esperanto, ok?
Que é sim, vamos abordar esta questão.
Exatamente, é uma ideia interessante, e que está unido às suas quatro secções, cada um feita pela sua entidade, portanto, a Fundação Sanitus, o Parental International e o International Chair of Bioethics e a Escomor, cada um tem a sua secção, e esse livro é unido em quatro secções, em quatro capas, numa forma redonda, é unido por um objetivo comum, que é uma espiral da vida, espiral do tempo, e que basicamente representa também a união que se pretende com este conceito de handicapacité, ok? Portanto, esse é o segundo objetivo, é o livro. O terceiro seria então o tal póster que já falámos, o Vita Balance, inclusive Vita Balance Med, Vita de vida, Balance de equilíbrio, Med de meio e médico, é um conceito médico que está por trás e que envolve a questão do meio ambiente que, adaptado, permite, como é óbvio, muito maior capacidade de inclusão social das pessoas, e inclusivo, portanto, a ideia é transformar a ideia, digamos, do Vita Balance de base, com que nasceu a Fundação, e incluir aqui a disability, o handicap, l'incapacité, por devenir inclusivo, plus inclusivo, ok? Essa é a questão. Donc, premier, le congrès, deuxième, le livre, troisième, le poster, quatrième, on aura encore un jeu. On développe avec Marc Courchard, à notre marque, pas que Rosenblatt, mais à notre marque qui est douée pour faire des jeux. Il fait déjà fait une centaine de jeux très intéressants sur plusieurs sujets. Et là, on l'a invité, la Fondation Sanitus, à faire avec nous, en partenariat, ces jeux handicapacité qui veut développer des nouvelles mentalités, changer le paradigme mental, no sentido de obrigar as pessoas a refletir sobre as cartas, o jogo, as questões, colocar questões e obrigar uma reflexão interna, intrínseca, introspectiva, se quisermos, para que a pessoa possa mudar a sua mentalidade e assim também mudar a forma de estar perante o handicap.
Sim, porque a ideia-chave deste congresso é mudar as mentalidades sobre a deficiência.
Exatamente. Há duas questões aqui, há sempre dois lados da moeda, o pessoal e o social, ok? O pessoal temos que mudar nós mesmos, intrinsecamente, a tal questão do jogo, a nossa forma de ver as coisas. Eu posso ter um handicap e ficar concentrado no handicap e não fazer mais nada, ficar bloqueado. Ou posso dizer, não, mas tenho capacidades restantes que me permitem fazer isto, isto e isto, e portanto vou por aqui. Eu posso ficar eu mesmo preso a estas duas questões. Mas se eu tiver um meio, daqui a questão de Vita Balance Med, se eu tiver um meio que propicia uma positividade, uma ajuda, uma prótese, uma tecnologia nova, que me permite ainda aumentar mais as minhas capacidades, para ser além do normal, ser mais hipernormal, chamemos assim, eu consigo então estar muito mais motivado, é o que se passa nos Jogos Paralímpicos, para desenvolver essas capacidades e ser útil à sociedade. Está por um lado o indivíduo e a sociedade. E tem que estar os dois em consonância. Daí a questão do Vita Balance, equilíbrio, ok? Pronto, o terceiro projeto, dizia eu, era o quarto jogo de handicapacité, bien sûr, feito por Marc Couchaz e moi-même, enfin, on travaille encore sur le projet et ça devient donc le cinquième projet. Je demanderai à Rosalie Morgado de représenter peut-être et dire un peu ce qu'on va faire donc de, enfin, si c'est possible, bien sûr, l'année de 2025. Et on irait présenter tous ces projets en plusieurs détails.
Oui, puisqu'il y a un projet, effectivement, en 2025. Rosalie Morgado, racontez-nous.
Ben, en 2025, on a l'intention de faire un deuxième projet dans la continuité du congrès handicapacité. On pense le faire plutôt dans le Val-de-Marne, dans un milieu médical, puisque c'est le but quand même. Mais bon, voilà, pour l'instant, on ne pourra pas en dire beaucoup plus. On reviendra plus tard, si vous le voulez bien, Didier, dans 6 mois, oui, pour en parler un peu plus, pour développer.
Oui, c'est ça. Et donc, Rosalie, elle est là pour nous aider dans cette démarche, qui, je pense, très important. C'est introduire aussi ces concepts, non seulement dans le milieu politique, disons, et culturel de l'UNESCO, mais aussi dans le milieu médical. Et ça sera vraiment une initiative luso-française. Donc, on va inviter des médecins portugais, des médecins français pour discuter le sujet. On a déjà aussi invité, d'ailleurs, il faut dire, pour la clôture, notre président de la République. Et on a essayé, je pense...
Le président portugais, j'imagine.
Rosalie pourra en parler un petit peu.
Mais... Effectivement, on a invité notre président, parce que ça nous faisait vraiment plaisir qu'il soit là. Hein. C'était un honneur. Bon, on n'a pas eu la réponse. Du coup, on a sollicité l'ambassadeur du Portugal, qui nous a gentiment répondu, bien évidemment, et qui nous a aiguillé vers l'ambassadrice du Portugal à l'UNESCO, c'est-à-dire Madame l'ambassadrice Rosa Botareu, qui nous a promis qu'elle passera le jour de l'événement pour nous saluer et pour féliciter le professeur Antonio de son travail et de son projet.
Et donc, c'est en effet Rosalie et je vois Waldemar Francisco aussi qui est
arrivé. Oui. Sans oublier Waldemar Francisco, oui, qui est aussi un acteur prenant dans le projet, oui, qui nous a bien aidé aussi.
Oui, il faut le dire, c'est ce nom de Waldemar Francisco qui est aussi une personne très active et qui a donné un soutien important pour le livre. Donc, il faut pas le dire.
Soutien financier important, tout à fait.
Sans lui, ça serait pas possible. Donc, il faut le dire en public, ça, et on remercie là, carrément. Donc, on espère avec cette équipe portugaise qu'on est là à développer, faire encore beaucoup mieux et encore plus grand, si c'est possible, toujours entre la France et le Portugal. C'est ça l'idée.
Et donc, ce congrès aura lieu donc à l'UNESCO le 9 septembre prochain. Il s'appelle Handicapacité, Sport et Travail. Oui. Concernant Handicapacité, Rosalie, vous avez un témoignage.
Eh bien oui, voilà, mon témoignage a fait que j'ai adhéré à ce projet dès la première fois que le professeur Antonio... m'en a parlé. Parce qu'en fait, moi, je suis une femme hyper dynamique et j'ai fait des formations dans l'hôtellerie. Enfin, je suis de formation hôtelière qui est la restauration est un travail très dynamique, comme vous pouvez l'imaginer. Mais pendant des années, je m'endormais. Vous savez, à l'époque, on prenait les commandes au calepin, à la main, puisque moi, je suis quand même de 88, hein, mes débuts professionnels. Et en fait, le soir, quand on attendait les clients pour prendre les commandes, je m'endormais. Et je prenais mes commandes les yeux ouverts. Et lorsqu'on arrivait en cuisine, bien évidemment, le bon était illisible. J'ai fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. La 7e année, le médecin du travail m'a dit, Madame Morgado, il faut faire un enregistrement du sommeil pour voir qu'est-ce que vous avez comme maladie. Suite à ça, d'ailleurs, je l'ai fait à l'hôpital Henri Mandor.
À Créteil ?
Oui, tout à fait. Suite à ça, ils ont découvert que j'avais une maladie du sommeil qui s'est nommée... Enfin, je suis idiopathique, hypersomniaque idiopathique, d'accord ?
Ça veut dire, si je peux traduire pour les gens...
Oui, traduction du docteur Antonio Marcelino Leal.
Idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas à l'origine. Bon, c'est une chose qui est individuelle, en effet, et qui hypersomnie. Donc, il y a trop de sommeil. C'est une personne qui dort trop. 10 heures, 12 heures par jour, elle a besoin de dormir pour être rétablie et reprendre sa activité.
Donc, trop de sommeil et pas de raison.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sommeil de bonne qualité, et donc c'est pour ça que ce n'est pas convenable de faire des soirées, faire des travaux de nuit. Et là, les médecins de travail doivent empêcher que ça se développe.
Tout à fait. Donc, suite à ça, le médecin du travail m'a déclaré inapte au travail du soir. Mais moi, comme j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup mon travail, qui est un travail vraiment très agréable, les relations humaines, le contact, voilà, la restauration française, tout ça, j'aimais beaucoup. Du coup, j'ai réfléchi, sans rien y connaître au côté médical ou à la thématique handicapacité, j'ai réfléchi comment dépasser cet handicap que j'avais officiellement.
Voilà, juste, c'est ça, le clic qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour dépasser mon handicap? C'est ça la question qu'on veut poser au niveau individuel. Mm-hmm. Après, il y a le côté social. Qu'est-ce qu'on peut dans la société faire? Et le médecin de travail l'a fait, très bien, et il a encadré le travail correctement. C'est ça, donc il y a deux côtés.
Donc du coup, j'ai été licenciée pour raison de santé, et je me suis mise... donc j'ai réfléchi, je me suis dit... j'avais bien remarqué que quand je restais très active, il n'y avait pas de problème de sommeil, d'accord? Donc je me suis dit, je vais trouver un restaurant dans lequel j'aurai un service hyper dynamique tout le temps. Chaque service sera dynamique. Mon esprit sera toujours à 100 à l'heure. Et du coup, le sommeil ne viendra pas. Et effectivement, donc c'est comme ça que j'ai atterri au Martin Pêcheur en 98. Et là, vu qu'on faisait 250 couverts par service...
C'était un peu plus actif.
C'était hyper dynamique. J'étais chef de rang et en même temps responsable de salle. Donc j'étais hyper, il fallait être hyper organisé. Et donc du coup, cette organisation nécessaire, etc., faisait que je m'ennuyais jamais. J'étais toujours dans un dynamisme incroyable, ce qui fait que j'ai pu travailler 20 ans en travaillant le soir. Parce que c'est un travail, vous bougez, donc du coup le sommeil ne vient pas. Mmh. Et notamment, ma maladie, elle déclenche un trouble de l'attention. Et donc le dimanche matin, quand il fallait travailler, resservir 250-300 couverts sans dormir 4 heures, alors que moi il m'en faut 10-12, il fallait, c'est toujours pareil, il fallait être dans cette dynamique, toujours marcher très vite, toujours aller très vite, aller au boulot en vélo, rentrer en vélo... Aller toujours très vite dans le travail. Et en allant très vite dans le travail, tout en réfléchissant, évidemment, il ne fallait pas faire n'importe quoi, sinon c'était raté d'avance. Mais en tout cas, c'est ce dynamisme que le sport peut apporter, peut-être, aussi. C'est ce dynamisme qui a fait que moi, j'ai pu continuer dans la restauration toutes ces années, jusqu'en 2021, quand même. Après, en 2016, j'ai commencé une reconversion dans l'immobilier, parce que j'ai eu d'autres problèmes de santé... qui ont fait qu'il fallait que je change de métier.
Mmh. Mais là, je me permets, c'est important cette notion parce que les gens sont beaucoup attachés à leur métier, comme c'était une chose obligatoire pour toute la vie. C'est un peu comme le mariage, on peut se divorcer et changer de mari, donc on peut aussi changer de travail. Et si un jour on n'est pas capable d'être, par exemple, paneiro, ok, parce que c'est la nuit, on peut faire professeur de boulangerie pendant la journée. Donc, c'est possible de changer, et faire la conversion professionnelle, ce qu'elle vient de faire, Rosalie d'ailleurs, est très bien. Changer d'un métier trop lour pour elle, qu'elle n'est pas capable, pour rentrer au travail, où elle est utile, où elle est capable, et qui essaie d'adapter à ses capacités. C'est ça le rôle du médecin de travail, c'est adapter les capacités restantes, voilà, et qui changent dans le temps, avec l'âge, on perd des capacités, c'est clair. Mais il faut changer aussi de travail, adapter le travail à la personne.
Excusez-moi. Et ce que vous venez de dire, Dr. Antonio Marcelino Leal, me fait penser à une chanson que nous allons écouter maintenant. Et nous allons reprendre notre discussion juste après.
Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti é latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti é latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo.
Thank you.
vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Muda de vida, se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo.
Olha, que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu deverás viver. Muda de vida, change de vie. C'est aussi ce qui vous est arrivé. Rosalie Morgado, continuez votre témoignage.
Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en 2016, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis devenue travailleur indépendant dans l'immobilier. Toujours pour conserver cette relation avec la clientèle, hein, les personnes. C'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup, beaucoup. Et en parallèle, j'avais une association caritative que j'avais créée déjà en 2014. Et du coup, ça m'a aussi libéré du temps pour être dans la solidarité et donc garder ce côté dynamique que j'ai besoin pour rester en forme. Et bon, notamment, j'ai aussi eu d'autres engagements. Hein, j'ai un engagement... auprès des Campinois politiques locales. Et tous mes engagements font
donc à Champigny-sur-Marne.
À Champigny-sur-Marne. Et tous ces engagements auprès des Campinois, plus l'immobilier, font que je reste toujours dans cette dynamique. Et ça me permet de rester dans le monde du travail, sans sombrer dans la dépression ou je ne sais quoi, sans me sentir inférieur à avant. En fait, mon handicap, mes handicaps, je ne les vois pas en fait.
C'est ça. O que é preciso, doutor, é aceitar e adaptar-se.
Voilà, c'est un bon exemple, en effet, ce qu'on parlait là tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a pris, qui a fait le clic, qui a pris le concept d'handicapacité. J'ai les capacités au-delà de l'handicap, de la question médicale. Et donc, je peux faire des choses. Elle a adapté d'abord son travail qui était trop épuisant au niveau physique, enfin, pour autre chose. Et là, elle a pris sa vie en main. Elle a fait un travail. Elle a décidé de faire un travail où elle est autre entrepreneur, donc elle prend l'horaire qu'elle veut, elle fait les choses qu'elle veut, comme elle veut. Bien sûr qu'il y a aussi un prix à payer, mais bon, c'est vrai que comme ça, elle peut bien gérer son sommeil, ses problèmes de santé, son problème de rachis, etc. Donc, c'est un bon exemple de ce qu'on doit faire, c'est faire le clic et nous demander à nous-mêmes qu'est-ce que je peux faire pour être capable de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est capable? Avec l'aide du médecin, donc voilà, c'est le médecin quand même qui l'a conseillé, pour dire, vous êtes capable de faire ça, 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 il y a encore ce problème, attention, bon, ça va peut-être évoluer dans ce sens ou dans l'autre. Donc, il faut comprendre qu'il y a aussi un côté technique qu'il faut respecter. Donc, les médecins de travail, c'est là pour ça. Il doit aider les gens à faire ce changement de vie pour être capable d'être utile à la société. Et c'est un bon exemple, Rosalie, merci pour cet exemple.
Et ce témoignage dit beaucoup donc du congrès qui aura lieu le 9 septembre prochain à l'UNESCO, Handicapacité, Sport et Travail. Il y a donc, vous en parliez, un petit livret, un livre qui accompagne ce congrès dans quatre langues, dont l'espéranto.
Espéranto. Il y a une petite chose que je dois dire avant que je dise, c'est que l'inscription, c'est gratuite. Hein. Mm-hmm. Vous ne payez pas pour connaître UNESCO, ça c'est très important. Et ça, non seulement vous irez avoir tous les panels qu'on a parlé là, mais aussi il y a le repas du midi et le repas du soir. Donc, des repas du type comorien.
Mais okay. Donc il faut s'inscrire.
Il faut s'inscrire rapidement parce qu'on est... On a une salle de 1200 personnes, c'est déjà plein, enfin, apparemment. Donc, il faut
peut-être
aller
donner le site.
Oui, c'est ça. Pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut voir le site officiel, handicapacité, enfin, tout ensemble, .org. Après, il faut voir dans les trucs, là, inscrire, ok? Ça s'inscrire rapidement parce qu'il n'y a pas trop de place maintenant, ok? Donc, faites ça, handicapacité.org, l'internet, et allez-y.
Et avant d'aborder la question de l'espéranto, on vient de recevoir un message d'une auditrice, Marie Lamps. Ele écrit en português: parabéns à Rosalie Morgado, ela soube fazer o melhor para poder viver normalmente. Nem todos os portugueses têm essa força para mudar de vida. Obrigado.
Sem dúvida.
Muito obrigada.
Merci, Rosalie. Et merci aussi
à Marie Lopes, notre auditrice. Et on a un message aussi d'un auditeur, mais je le lirai à la fin. Donc, l'espéranto. Okay.
Alors, bon, pourquoi l'espéranto? Bon, d'abord, j'évolue. Bien sûr que la langue officielle sera obligatoirement l'anglais et le français, parce que c'est ça la langue de l'UNESCO. Mais je voudrais ajouter le portugais. Donc, bon, c'était
une bataille.
Une bataille. C'était pas facile, mais je pense qu'on est arrivé. Donc, on va faire quatre. Pas deux, mais quatre. Mm-hmm. Donc, il y aura l'anglais, le français, le portugais ou une autre langue. Il y a le romain, il y a l'indien, il y a des choses. Il y a 40 auteurs, là, différentes. Ils ont chacun sa langue. La majorité, c'est français. Il y a une partie de portugais, donc Rosalie en plus, et Valdemar Francisco et d'autres. Mais bon, il y a une partie aussi, donc, du portugais. Mais la quatrième langue qu'on a voulu faire, c'est ni pas le français, ni pas l'anglais, ni pas le portugais. C'est une langue qui est neutre, qui n'a pas de patrie, qui n'a pas d'économie, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de guerre. Parce que tous les autres, ça, tout, derrière de chaque langue, il y a une histoire, il y a une économie, il y a une volonté politique de faire la guerre avec les autres. Okay, on le voit tous les jours dans la télé. Hein, donc, vous voyez ce qui se passe dans le monde. Donc, et le langage, c'est un problème. Si on ne communique pas avec les autres, on ne peut pas faire la paix. On ne le connaît pas, on ne le communique pas, on ne le comprend pas. Si on ne comprend pas les gens, on fait la guerre. C'est facile de faire la guerre, en fait. Donc, si on a la même langue, si on parle la même langue, par exemple, entre les Portugais, c'est beaucoup plus compliqué de faire la guerre. Mais entre les Portugais et les Espagnols, il y a eu beaucoup de guerres. Bon, voyons. Donc, Espéranto, c'était une langue qui a été développée par un médecin, par hasard, polonais, après la Deuxième Guerre, pour éviter la guerre, précisément. Ça veut dire espoir, Espéranto, ça veut dire espoir. Et l'idée, c'est créer donc une langue qui est facile à apprendre, beaucoup plus facile que toutes les autres, même l'anglais. Ça prend 2 ans, apparemment. Et donc, c'est facile. Je parle un tout petit peu, mais bon. Et donc, c'est international. Il prend des termes de plusieurs langues, de plusieurs pays, inclus du portugais, du polonais, du français, d'anglais, etc. Et donc, facile à apprendre à l'école. Donc, de mon point de vue, c'est ça le grand projet aussi qui vient avec le livre. Ça, c'est un sixième projet pour toute la vie. Ça ne sera pas pour moi, mais c'est de développer le sens qu'il faut avoir une langue neutre, planétaire, écologique, qui représente tout le monde, la planète, qu'il faut sauver. Donc, cette langue, c'est l'espéranto. Et pour moi, c'est très important. Et cette langue permettrait, déjà, je suis parti donc de notre mouvement qui veut faire de l'aide après la guerre. Et on s'est dit, mais quelle langue on va parler? Et on va parler espéranto pour tout le monde. Et si, comme ça, on pourrait faire avec la télémédecine beaucoup plus de choses si on a tous la même langue. Mm-hmm. Et on pourrait aider des gens en télémédecine partout dans le monde.
Et c'est en 1887 que donc le docteur Louis-Lazare Zamenhof, sous le pseudonyme Doctoro Esperanto,
ouais,
donne le nom à cette langue internationale pour laquelle vous vous battez, qui est l'espéranto.
Espéranto. Et ça permet d'un côté non seulement communiquer entre les gens, donc diminuer le risque de guerre, d'un côté, mais aussi, j'ajoute ça comme nouveauté, j'ai déjà parlé avec la section Espéranto de France, les invités, ils sont d'ailleurs partenaires du projet. Donc le livre ne contient pas que la langue, il contient le projet de ramener l'idée à UNESCO d'utiliser l'espéranto comme le langage du monde, du planète, l'écologie, de la télémédecine, de l'aide et surtout de la paix.
Dar valor às capacidades para além da deficiência, valoriser les capacités au-delà du handicap, c'est l'une des nombreuses ambitions de ce congrès, donc le congrès Handicapacité, Sport et Travail, tous gagnants par l'exercice physique et mental. Un congrès qui aura lieu le 9 septembre prochain, dans 3 jours, à la maison de l'UNESCO. Vous pouvez vous inscrire, chers auditeurs et chères auditrices, sur le site internet handicapacité.org. Alors, il ne faut pas mettre les accents, donc c'est handicapacites.org, handicapacite.org, c'est le site pour vous inscrire à ce congrès le 9 septembre prochain à l'UNESCO. Merci beaucoup, Dr. Antonio Marcelino Lial et Rosalie Morgado, de vous être déplacés jusqu'ici pour nous parler de ce très beau congrès. On va finir avec le message donc d'un auditeur, Manuel Pereira, je le cite: bon dia Didier, é prazer reouvir o Sr. Dr. Lial, conheço a Fundação Sanitos desde quando o Sr. Dr. começou com o projeto nos tempos de Sampaio de Oleiros e fico contente que o projeto não tenha acabado. Um abraço ao Sr. Dr. Lial.
Muito obrigado, agradeço imenso palavras, foi um projeto interessantíssimo. Tínhamos reabilitar o Hospital Sampaio de Leiros e infelizmente não foi possível. Faltou-nos algum dinheiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. António Marcelino Leal, e muito obrigado, Rosélia Morgado.
Obrigado, nós.
Muito obrigada a ti.
E até breve.
Até breve.